Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal. Le seul entre tous les jeux qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence, ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement de l'appeler un jeu ? N'est-ce pas aussi une science ? Un art ou quelque chose qui est suspendu entre l'un et l'autre. Ce sont les mots de Stefan Zweig dans Le Joueur d'échecs et notre programme immédiat, les échecs, leur science, les maths, la programmation, l'informatique, sans oublier l'instinct et bien sûr l'art. Échec et maths, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et autour du plateau, deux éminents spécialistes tant du jeu que de ses finesses numériques et mathématiques. Bonjour Lisa Rouchetet.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en mathématiques à l'université Charles de Gaulle, Lille 3. Vous avez travaillé sur l'histoire de la théorie des jeux combinatoires au XXe siècle. Bonjour Eric Birmingham.
Bonjour Lisa, bonjour Nicolas.
Vous êtes maître international FIDE, hein, FIDE pour Fédération Internationale des Échecs, mais aussi journaliste et auteur de la chronique échecs dans le journal L'Humanité. Vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour en direct et ça va peut-être être utile aujourd'hui pour voir quelques diagrammes, quelques graphiques sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc. Alors, on va parler de la structure des échecs comme jeu combinatoire, de l'informatique derrière les programmes et les intelligences artificielles. Après une nouvelle victoire tout récemment là d'Alpha Go, une intelligence artificielle contre le champion du monde de Go, qui est un jeu mathématiquement plus complexe que les échecs. Est-ce que ça sert encore à quelque chose que les humains continuent de jouer aux échecs quand on voit qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle arrive à battre le champion du monde de Go, Eric Birmingham?
Alors je dirais que c'est un petit peu, si on prend les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, on a par exemple des champions sportifs, je pense par exemple à Usain Bolt. Mm-hmm. Ça ne viendrait pas à l'idée de dire qu'on va arrêter de courir entre humains parce que Usain Bolt peut être battu par une moto ou par une voiture. Donc en fait, on est toujours en admiration devant les prouesses des humains. Et pour ma part, en fait, je pense qu'aux échecs, les hommes jouent de façon complètement différente des machines. Même s'ils jouent au même jeu, c'est pas avec les mêmes moyens. Donc je pense que même si un jour on arrive ne plus pouvoir du tout lutter contre les machines, ce qui n'est pas encore le cas, on continuera à jouer entre nous.
Je compléterais aussi en disant qu'il y a un aspect très culturel finalement au jeu et qui fait que ce n'est pas parce qu'on a des machines qui maintenant sont très performantes et qui pourraient peut-être rebuter certaines personnes de se lancer à jouer aux échecs contre une machine. Il y a aussi beaucoup de gens qui jouent aux échecs entre eux et je pense qu'il y a cette dynamique-là qui est aussi importante et qui fait que les personnes continuent de jouer aux échecs.
Puisque dans les échecs, il y a le terme jeu qui n'est pas sous-estimé. Alors je vais poser la question différemment. L'homme est-il aujourd'hui condamné à perdre face aux machines? Aux échecs, Eric Birmingham.
À long terme, je pense que oui. Alors aujourd'hui, on peut dire que dans 99,9% des positions, les machines nous sont supérieures. Cependant, il y a encore des failles dans les programmes. Je vois trois failles. La première faille, c'est que le programme, dans une position donnée, il n'est pas capable de renoncer au meilleur coup. Au coût optimal pour prendre une ligne qui va lui garantir de pouvoir continuer la partie. C'est un peu difficile ce que je veux dire, mais en fait, je m'explique. Il y a une partie célèbre entre deux programmes, un programme américain qui s'appelle Duchess, un programme russe qui s'appelle Kaïsa. Et dans cette partie, ce qui s'est passé, c'est que le programme américain, à un moment donné, a joué un échec. Il y avait deux solutions pour le programme Kaïsa. Il pouvait soit bouger son roi, il perdait pas de matériel, la partie continuait, ou donner une tour. Il a donné une tour. Sur le coup, les gens ont pensé à un bug. Donc, trois coups plus tard, il abandonnait. Et en fait, on a vérifié, s'il avait joué le coup humain, roi G7, il aurait été mat en 5 coups. Mais cela dit, pour un humain, c'est invraisemblable de jouer comme ça. Mm-hmm. Parce que le jeu d'échecs, c'était quand même, on mise sur l'erreur de l'adversaire. L'adversaire peut ne pas voir le gain. Donc, on continue, on balance pas la partie. L'ordinateur, il a balancé la partie. Mm-hmm. En fait, il y a aucun programme aujourd'hui qui arrive à renoncer au coût optimal pour jouer une ligne pratique. Ils ne savent pas faire ça. Donc c'est la première lacune. Il y a une deuxième lacune. Les ordinateurs, ils ont des capacités de calcul absolument phénoménales, mais ils sont bloqués par ce qu'on appelle l'effet horizon. C'est-à-dire, si ça va trop loin, ils sont bloqués. Et il arrive que dans certaines
trop loin, c'est-à-dire trop loin dans le nombre de coups que l'on peut prévoir dans
exactement.
L'arbre.
Pour donner une idée aux auditeurs, si on calcule 8 demi-coups de profondeur, c'est 4 coups. Nicolas, vous avez les blancs, vous jouez 4 coups, moi 4 coups, vous calculez 4 coups chacun. Eh bien, pour voir l'ensemble des possibilités, on est à 4350, j'ai le chiffre, 4350 milliards de positions différentes. Donc c'est énorme. Donc la machine, elle a des algorithmes pour sélectionner les coups. Néanmoins, c'est colossal. Ce qui fait que la machine, elle est bloquée par l'effet horizon. Donc dans certains cas, la machine se trompe. C'est-à-dire que par exemple, elle ne voit pas un pat. Qui va arriver beaucoup plus tard.
Une patte, il faut préciser que ça n'est pas le mat. Le pat, c'est quand voilà. Les deux rois sont bloqués et qu'il n'y a plus de solution
y a
possible.
Plus de coup légo.
Voilà, il n'y a plus de coup légo.
On n'a plus de coup légo. Les deux rois, le roi n'est pas en échec, mais il ne peut pas jouer. Et la machine ne le voit pas arriver. Autre chose qu'elle ne voit pas arriver, c'est la forteresse. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de matériel d'avance, mais l'adversaire crée une forteresse. On a beau avoir beaucoup de matériel d'avance, on ne passe pas. Pour les auditeurs, par exemple, il y a un cas qui est très très simple. On a roi tour pion. L'adversaire a roi-dame, c'est un énorme avantage matériel, mais il y a de nombreuses positions qu'on ne gagne pas. L'ordinateur ne le voit pas. Donc, on a encore des possibilités de la battre. Et je finirai en disant, par exemple, il y a une partie qui a été jouée en 67 par l'américain Bobby Fischer contre Nikolic en Yougoslavie. Il a fait une combinaison aujourd'hui que même les meilleurs programmes sur les ordinateurs les plus puissants n'arrivent pas à répliquer. En fait, l'ordinateur aujourd'hui comprend la combinaison de Fischer si on introduit les premiers coups. Et là, il comprend, mais il peut pas l'initier. Il a pas. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Fischer en 67 a joué mieux que les programmes aujourd'hui.
Voilà les trois raisons très très exhaustives. Lisa Rouchetet, une réponse tout de même, votre point de vue de mathématicienne sur cette question de savoir si l'homme est condamné à perdre face au développement des intelligences artificielles.
Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit j'apporterai pas grand chose de plus. Je peux peut-être signaler qu'en 2007, il y a eu une partie qui a été jouée contre le programme Ripka et le joueur Hikaru Nakamura et qui a joué sans tactique clairement défini pendant près de 150 coups, ce qui me semble est assez énorme et qui a donc finalement quelque part un peu perdu le programme dans une démarche pas clairement définie. Et donc je pense que ça rejoint cette idée que l'homme est encore en mesure dans certains cas de perdre le programme, donc, mais à un très très faible pourcentage.
On dit, la légende veut que dans l'échec célébrissime de Kasparov face à Deeper Blue, Deeper Blue n'a remporté la partie qu'à cause d'un bug informatique, que le coup qui a déstabilisé Kasparov n'était pas un coup prévu, programmé par la machine, mais était un bug informatique. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une légende d'Eric Birmingham ?
Alors, bon, moi, ce que je dirais de ce match que j'ai vécu, la première partie remportée par Gary, une belle partie. La deuxième partie, il abandonne dans une position nulle. C'est-à-dire qu'au moment où il arrête la partie, il va à l'hôtel, il va se coucher. Et dans la nuit, Internet existait déjà à l'époque, en 97. Et dans la nuit, les internautes, les joueurs d'échecs découvrent qu'il y avait une façon de s'en sortir. Si Gary n'avait pas abandonné, il aurait sans doute partagé le point. Il aurait trouvé les défenses, il n'aurait pas perdu. Donc Kasparov, il est dévasté par cette défaite. Il ne doit pas perdre cette partie, il l'abandonne. Après, il y a trois nuls, terriblement disputés. Des parties magnifiques, vraiment éblouissants. Mais Kasparov, il a... Bon, moi, j'ai lu ça beaucoup plus tard, dans des revues comme New In Chess, revue néerlandaise, qui est d'extrême qualité. Et les secondants de Kasparov ont parlé après le match. Et ils ont dit, par exemple, que Gary, il était au bord des nerfs. Il dormait mal, il voulait gagner le match. Il avait battu deux fois Deep Thought avant ce match. Et il voulait battre Deeper Blue également. Et tout se joue dans la dernière partie. À ce moment-là, il y a
Deep Thought qui était une version antérieure du programme.
Voilà.
Rappelons-le.
Voilà. C'est le projet d'IBM. Et Deeper Blue, c'est ça.
Il y a Deep Thought, puis Deep Blue, contre lequel il gagne en 96. Tiens, tenez. Oui. D'ailleurs, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Écoutez, cette archive de 96, le match entre Garry Kasparov et Deep Blue est en cours.
Face à face, deux monstres. L'un, Kasparov, ne supporte pas la défaite. L'autre n'est pas vraiment conçu pour perdre. Cet ordinateur dispose en effet d'une base de données qui répertorie toutes les parties jouées au XXe siècle et Kasparov a juré de lui faire mordre la poussière.
L'ordinateur, c'est 100 millions de coups secondes. C'est une force de calcul énorme, mais qui va se perdre puisque l'ordinateur va calculer mécaniquement des milliards de possibilités. Et de l'autre côté, nous avons un être humain qui est champion du monde depuis 10 ans, qui a une perception du jeu, une connaissance, une intelligence, une imagination. Il va d'instinct rayer 99% des coûts que calcule l'ordinateur et se concentrer sur 1% et aller jusqu'au bout d'une stratégie.
Les 200 témoins du duel le savent, pas question pour Kasparov de jouer au plus fin. Car contrairement à l'homme, l'ordinateur ne tolère pas la moindre gaffe, fût-elle volontaire.
Absolument pas le droit à l'erreur, même volontairement. Il y avait un joueur qui était fantastique, qui s'appelait Lasker, au début du siècle, qui acceptait d'avoir une mauvaise position pour donner à son adversaire le sentiment d'être déjà gagnant et donc de plus trop regarder ce qui se passait sur l'échiquier. Contre un ordinateur, ça malheureusement on ne peut pas le faire.
Voilà cette archive donc pour à propos du match. On est en 1996 entre Garry Kasparov et Deep Blue, et Garry Kasparov qui remportera cette première compétition contre l'intelligence artificielle. Et ça n'est pas une intelligence artificielle au sens où on l'entend aujourd'hui, hein. C'est un programme de calcul Deep Blue, et il perd donc, vous le disiez, la légende veut que on en parlait tout à l'heure, Eric Birmingham, que Kasparov perde parce qu'à un moment donné Deeper Blue fait un mouvement qui est complètement inattendu, qui le déstabilise et qu'il perde sur ce mouvement là. Or l'histoire dit après que ce mouvement était en fait un glitch, c'est-à-dire un bug de l'ordinateur qui en fait a choisi un mouvement au hasard.
Bah, en fait, moi je dirais que donc, comme je disais, après la cinquième partie, il y a 2,5, 2,5, et Kasparov se saborde dans la sixième. Qu'est-ce qui se passe dans la sixième? Il a les noirs. Vous savez que c'est plus difficile de gagner avec les noirs qu'avec les blancs. Les statistiques le montrent, hein. On a environ 54% de chances de victoire avec les blancs. Donc on a un peu l'avantage. C'est comme au tennis, hein. On sert, on joue le premier coup, on détermine la stratégie. Et Kasparov a les noirs. Donc il va faire un truc incroyable. D'abord, il va jouer une carocane. Lui, c'est un spécialiste de la sicilienne. Il joue une ouverture qu'il a jouée quand il était enfant. Donc il choisit cette ouverture. Et au septième coup, il fait un coup incroyable. Kasparov. Pas l'ordinateur, Kasparov. Kasparov, il fait un mouvement à schiste qu'on sait être très mauvais. Alors, deux hypothèses. Ou bien les nerfs ont lâché. Alors, il y a tout un tas de
littérature, d'interprétation.
Comment on appelle ça? Vous savez, le mot m'échappe. Les théories du complot. Il y a tout un tas de théories de complot qui disent que la mafia lui a demandé de jouer un coup perdant parce qu'ils avaient parié sur la victoire d'IBM. D'autres qui disent que Kasparov a vendu le match. Voilà, tout un tas de trucs complètement délirants. En fait, ce qui s'est passé, à mon avis, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, Kasparov épuisé, les nerfs ont lâché, il a commis cette terrible bévue. Pourquoi c'est une bévue? Parce que cette ligne avait été jouée 20 fois. Au moment de la partie, il y avait eu 19 victoires blanches. C'était écrasant pour les blancs. Donc pourquoi Garry joue ça? C'était incroyable. La deuxième hypothèse, qui est plus vraisemblable, c'est que si l'ordinateur sur H6 ne sacrifie pas, ça veut dire qu'il enlève le cavalier. Et là, il perd du temps. Kasparov aurait gagné du temps. Donc il est possible que Kasparov ait bluffé, en espérant que les programmeurs n'aient pas mis cette ligne dans la bibliothèque d'ouverture de l'ordinateur. Auquel cas, il a une chance de l'emporter. Pour moi, c'est ce qui est vraisemblable. Et Kasparov a un peu joué au poker. Comme disait l'interview que vous avez passée, il ne faut pas jouer au poker, il faut jouer aux échecs.
C'est ça, le poker et les échecs, ça n'est pas le même jeu. Les échecs sont un jeu combinatoire. Un mot peut-être sur cette confrontation, sur ce qui a marqué l'histoire du jeu, puisque c'est la première fois qu'un être humain perd face à une machine. Aujourd'hui, on l'a dit, les programmes se sont nettement complexifiés, mais ça a été, on va le dire et on va le redire, la recherche en informatique sur le jeu d'échecs, ça a été vraiment un point central, un point pionnier de la recherche vraiment en informatique, en combinatoire. Oui. Lisa Rouchetet.
Alors, c'est-à-dire que, bon, pour refaire une petite histoire de ça, c'est les premières idées de programmes de jeux d'échecs remontent en 1950 avec les premières idées autour de l'intelligence artificielle. Donc, notamment avec les programmes de Claude Shannon, d'Alan Turing, qui, je le dis au passant, écrivent des articles pour des machines qui n'existent encore pas, qui font des calculs à la main. Donc, ce qui était aussi très fastidieux, peut témoigner Alan Turing. Donc c'est quelque chose qui vient très rapidement dans les premières idées de créer une intelligence, enfin une machine qui puisse penser. Alan Turing parle d'une machine qui puisse penser.
Turing pense vraiment la simulation informatique du jeu d'échecs comme le début de la création d'un cerveau artificiel.
Hein. Exactement, qui en plus serait en mesure d'apprendre par lui-même par la suite. Et pour Claude Shannon, bon, l'approche est un tout petit peu différente dans la mesure où il trouve que le jeu d'échecs est suffisamment simple pour une programmation dans la mesure où on a un plateau fini, où on a des règles bien déterminées, on est dans un modèle discret, on n'est pas dans un modèle continu, et que ça pourrait, par contre, il est aussi suffisamment compliqué, puisqu'on ne peut pas, écrire un programme simple et y a des enjeux complexes derrière, pour finalement s'attaquer ensuite à des problèmes plus difficiles, des stratégies militaires, de la traduction d'une langue à une autre. Donc ce serait en fait un point d'entrée vers une intelligence artificielle, bien que le terme n'existe pas encore à cette époque, mais vers quelque chose de plus abouti.
Une porte d'entrée en tout
une
cas.
Une porte d'entrée, voilà. Exactement. Et ça l'a toujours, enfin, et ça l'est resté, je dirais, pendant une vingtaine d'années, entre 1950 et 1970, dans une phase qui est qualifiée dans la littérature secondaire et que je qualifie aussi de phase pionnière, finalement, de la programmation du jeu d'échecs, où l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer un programme qui puisse bien jouer pour tenter ensuite de créer un raisonnement humain et une machine qui puisse penser comme l'homme.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est déjà 4h15, vous écoutez la méthode scientifique. Nous parlons d'échecs et de mathématiques tout au long de cette heure en compagnie de Lisa Rouchetet, qui est chercheuse en mathématiques à l'université Charles de Gaulle Lille 3, et d'Eric Birmingham, qui est maître international FIDE, également créateur de problèmes d'échecs dans le journal L'Humanité. Vous pouvez suivre une fois de plus cette émission, je vous le rappelle, ça va être important parfois pour visualiser les coups dont on va parler ou pour revoir certaines archives sur le fil Twitter, donc de l'émission sur @laméthodefc. Puisqu'on a commencé à aborder cette question des mathématiques derrière les échecs, à partir de quand est-ce qu'on commence, Lisa Rouchetet, à mathématiser les échecs? Et question afférente, est-ce que les mathématiques résolvent les échecs?
Alors, c'est une excellente question, c'est difficile de dater clairement le début, finalement, d'une pensée mathématique sur un jeu. On peut commencer à citer, je dirais, à partir déjà du XVIe siècle, des premiers traités sur les systèmes d'ouverture. C'est peut-être pas des mathématiques, mais c'est déjà une analyse du jeu d'échecs en soi. Ensuite, il y a un célèbre ouvrage de Fildor en 1749, qui est un des premiers du genre, qui a été réédité un certain nombre de fois, qui justement analyse le jeu d'échecs. Mais c'est souvent des analyses, je dirais, de fin de partie ou des ouvertures, mais ça reste quand même finalement un traitement combinatoire d'une fin de partie. Et ensuite, intéressant à souligner, c'est qu'il y a eu des problèmes de mathématiques qui se sont développés autour de l'échiquier. L'échiquier et le jeu d'échecs a été finalement une sorte, je dirais, d'excuse, d'objet pour amener des problèmes mathématiques, notamment des problèmes de combinatoire ou des problèmes qu'on traiterait maintenant avec la théorie des graphes comme le cavalier de l'air. Le cavalier de l'air, pour rappel, c'est, on prend le cavalier, la pièce et son déplacement particulier, et est-ce qu'il existe finalement un chemin pour que le cavalier parcourt toutes les cases de l'échiquier une seule et même fois?
Ça, c'est l'un des problèmes afférents aux échecs, comme
Exactement.
Le problème de 8 dames.
Voilà.
C'est-à-dire de mettre 8 dames dont aucune
c'est
ne
ça.
Se menace,
mais,
et c'est un problème à 12 solutions.
Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que voilà, ça tout émane de l'échiquier, et qu'il y a vraiment tout au cours de, donc à partir du 17e siècle, 18e, 19e, et même 19e, il y a des choses en combinatoire qui sont faites là-dessus. On va dire le jeu d'échecs est un stimulateur de mathématiques. Maintenant, pour en revenir, je dirais, à l'analyse mathématique du jeu en lui-même tel qu'il est pratiqué, à ma connaissance, ça remonte, je dirais, en 1912 avec un mathématicien allemand qui s'appelle Ernst Zermelo, qui publie en 1912, un article sur justement le jeu d'échecs et qui
postule un théorème de détermination.
Exactement. Alors, il le postule pas aussi clairement qu'on peut le dire, mais effectivement, le théorème de détermination, il dit quoi? Il dit que finalement, les blancs peuvent gagner quelle que soit la façon dont les noirs jouent, ou bien les noirs peuvent gagner quelle que soit la façon dont les blancs jouent, ou bien il y aura un nul quelle que soit la façon dont les deux joueurs jouent.
Ce qui dit comme ça a l'air relativement
simple.
Ça
paraît très simple, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est, que chaque joueur finalement expérimente et teste et connaît intrinsèquement, mais il a fallu quand même l'expliciter, et cet article-là, Zermelo le prouve avec de la théorie des ensembles, avec des choses mathématiques assez complexes. Et ensuite, à partir de là, je dirais finalement, c'est à partir du XXe siècle qu'on s'est vraiment intéressé là, plus mathématiquement, avec cette histoire de détermination du jeu. L'article de Zermelo a été ensuite repris par des mathématiciens hongrois comme Koenig, Kalmar. Von Neumann s'est aussi intéressé à un problème, enfin, a mis en place finalement une notion très importante.
Borel et Von Neumann.
Avec justement le concept qu'on appelle du minimax. Chose qu'on retrouve ensuite.
Qu'il va falloir expliquer. Mais je voudrais donner un peu la parole à Eric Birmingham. Vous qui êtes donc maître international FIDE, donc joueur d'échecs au premier plan, est-ce que être joueur d'échecs, c'est d'une certaine manière avoir une pensée mathématique.
Alors, on n'a pas de pensée mathématique. Quand j'entends Lisa, je suis très très loin de tout ça. Simplement, c'est vrai que le jeu d'échecs cultive cette idée depuis l'origine. Par exemple, lorsque le jeu naît en Inde au 5e siècle de notre ère, il y a tout de suite des légendes qui se mettent en place. Et j'imagine que vous connaissez la légende de Sissa.
Du grain de riz.
Voilà. Donc, je vais le dire très vite.
Rapidement.
Sissa invente le jeu d'échecs. C'est un brahmane. Et le roi, pour le remercier, lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Et Sissa, pour donner une petite leçon d'humilité à son roi, il lui dit « je veux du riz ou du blé » et il faut mettre un grain de blé sur la première case, puis 2, 4, 8, etc. Donc en fait, ça représente...
Puissance 2 à chaque fois.
Voilà, c'est 2 puissance 64 moins 1, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et en fait, des calculs ont été faits et ça représente, là je l'ai noté, ça représente 1000... Si on estime qu'un grain de blé pèse un décigramme, la demande de Sissa, c'est 1800 milliards de tonnes de grains de blé. Ça veut dire que si on prend une production moderne, c'est équivalent à 3500 ans de production. Donc en fait, l'intendant a dû être très embêté pour livrer le riz à Sissa. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça.
Ce qui lie l'origine des échecs et du jeu d'échecs, en tout cas, immédiatement, effectivement, à une pensée mathématique et à un axiome mathématique.
Tout à fait. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de puzzles aux échecs qui attirent les maths. Par exemple, là, j'en ai noté un que je trouve très intéressant, qui est très utile pour le final. Vous savez, les Russes, les Soviétiques disaient que le roi, en finale, est égal à une tour. Une tour, ça vaut 5 points. Et le roi...
Alors, parce que les pièces sont, à un moment donné, quantifiées plus ou moins. C'est-à-dire qu'une tour vaut 5 points, le roi vaut 100 points, un pion vaut 1 point, pour estimer leur importance, mais avec une variable d'ajustement qui est qu'un cavalier en milieu de jeu n'a pas tout à fait la même valeur qu'un cavalier en fin de jeu, en fin de partie.
En fait, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a donné des valeurs numériques aux pièces dans les positions tranquilles. Mais à partir du moment où une position est explosive, tout ça n'a plus d'importance. Alors, en l'occurrence, une dame, ça vaut 9 pions. Une tour, 5 pions. Le cavalier, le fou, 3 pions. Mais vous avez raison, dans une position très fermée, le cavalier est supérieur au fou. Tout simplement parce qu'il peut sauter par-dessus les pièces, alors que le fou est bloqué. Et dans une position très explosive, une dame n'a pas d'importance si on mate. Voilà. Donc c'est très relatif, la valeur. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en finale, vous savez, en début de partie, en milieu de partie, le roi, on le met à l'abri, c'est le président de la République, on va pas le sortir dans les champs de mine. Donc on le met à l'abri, mais au fur et à mesure des échanges, le roi, il peut sortir, il accompagne ses pièces, en finale, dans le jeu agressif. Et le roi est très fort. Un camp qui a le roi enfermé et l'autre qui joue avec le roi, celui qui joue avec son roi, il va gagner. Et alors, pour montrer la force du roi, il y a des soviétiques. Vous savez, les soviétiques ont beaucoup, beaucoup travaillé après la révolution sur les échecs. Et les soviétiques ont mis des petits problèmes. Alors, par exemple, le petit problème que j'ai lu, c'est qu'on met un roi sur la case E1, donc sur sa case de départ. Et pour aller de E1 en E8, il y a
donc pour traverser l'échiquier,
il y a 7 coups. Il y a 7 coups.
Mais faut rappeler aux auditeurs qui ne connaissent pas le jeu d'échecs que le roi ne peut avancer que d'une case par tour. Voilà, dans tous les sens, mais d'une case par tour.
Donc le roi, il va aller en 8 en 7 coups. Mais combien y a-t-il de chemin pour aller de 1 en 8? En fait, il y en a près de 400. Il y a 393 chemins. Et c'est vrai que pour les débutants, c'est absolument inconcevable. En fait, le roi, il a déjà les 3 premières cases devant lui et puis ça fait comme un losange. En fait, il part, je fais des signes à la radio, mais c'est un peu comme un losange.
On va essayer de vous trouver ça pour vous mettre le schéma sur Twitter, comme ça vous pourrez
le visualiser. Je vous
le donnerai. On a déjà mis le schéma du problème du cavalier qu'on va mettre dans l'illustration.
Et effectivement, comme disait Lisa, dans la culture échéenne, il y a aussi les cases conjuguées dans les rois en opposition. Et ça, c'est très important pour les finales, prendre l'opposition. Et il y a donc un concept qu'on appelle les cases conjuguées, c'est-à-dire que je mets mon roi en opposition. C'est un peu comme au foot, où vous mettrez votre épaule pour empêcher le joueur vous avez le droit de mettre votre épaule. Aux échecs, le roi, il a le droit de mettre son épaule pour empêcher le roi adverse de passer. On appelle ça prendre l'opposition. Et alors, il y a des cases conjuguées.
Parce que les deux rois ne peuvent jamais être côte à côte, évidemment, puisque sinon on arrive à un échec.
C'est interdit. Donc, en fait, l'opposition, c'est utile pour aider, par exemple, un pion à se promouvoir, ou pour éviter de la promotion du pion adverse.
Et donc, la promotion, c'est quand un pion arrive sur la ligne finale et qu'on peut l'échanger contre n'importe quelle pièce. Contre la ligne adverse. Non, mais je fais la traduction.
Et en fait, là où je veux en venir, pour rejoindre ce que disait Lisa, on a absolument besoin d'un peu de maths. Un petit peu. Moi, je suis pas du tout matheux, mais je reconnais qu'on a besoin d'un peu de maths. Par exemple, les cases conjuguées, c'est quand on regarde la triangulation opposée, la triangulation diagonale, la triangulation éloignée, et l'opposition éloignée, pardon, l'opposition éloignée, l'opposition diagonale, l'opposition directe, triangulation, c'est autre chose. Et là, pour voir tout ça, on appelle ça les cases conjuguées. Et ça peut être extrêmement compliqué. Suivant la position des pions ou des pièces, ça peut être très compliqué. Et là, il y a un peu de maths. D'ailleurs, Marcel Duchamp avait fait du travail autour de ça. L'artiste Marcel Duchamp, il a travaillé autour des cases conjuguées. Il était joueur d'échecs.
La question, c'est que on se pose beaucoup. Moi, qui suis un joueur d'échecs tout à fait novice, donc je vais pas très très loin dans mon raisonnement. On se pose la question quand on est face à des joueurs professionnels et expérimentés tels que vous l'êtes, Eric Birmingham, de la capacité à se projeter dans ce que vous expliquiez tout à l'heure, le nombre de coups en avance. Est-ce que dans cette capacité de se projeter, il n'y a pas une forme de raisonnement qui se rapprocherait d'un raisonnement mathématique?
Alors, je pense pas, parce que je connais des gens qui... Je pense pas, et c'est un peu différent. En plus, sur cette question, on pose souvent la question aux joueurs d'échecs, combien de coups ils prévoient à l'avance. Alors, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la position. Si c'est une monovariante, c'est très facile.
Monovariante,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arborescence. C'est-à-dire que, par exemple, je calcule mon coup et tous les coups sont forcés. Vous voyez, par exemple, une combinaison de maths où on fait tour H1 échec, roi G8, tour H8, roi prend, tour H1, roi G8, tour H8, la dame arrive, dame achète, roi F8. Maths, c'est linéaire, il n'y a pas d'arborescence. Là, on peut calculer 20 coups très facilement. C'est très facile. Parce que le problème aux échecs, c'est que je joue un coup et vous avez 5 possibilités. En théorie, vous en avez 38 dans un milieu de partie. Mais là, dans la position que je vois dans ma tête, vous avez 5 coups possibles. Je dois regarder les 5 coups. Et au fur et à mesure, et ce qui est compliqué, c'est l'arborescence. C'est ça qui fait très très mal aux joueurs d'échecs, c'est que on se bat parce que à chaque fois on calcule un coup, et là ça ouvre tout un arbre, et après encore un arbre avec des variantes, des foultitudes de variantes, et c'est l'arborescence qui nous fait mal.
Lisa Rouchetet, sur
avec il me semble un facteur de branchement de 35, il me semble.
C'est ça.
Alors, pour un programme qui fait juste des branchements et pas un humain qui calcule intelligemment, je dirais, avec raison. Donc oui, non, c'est assez difficile finalement de voir ça. Mais pour en revenir du coup aux mathématiques derrière ça, donc voilà, cette progression finalement autour des mathématiciens autour du XXe siècle, et on en était resté au minimax, il me semble. Alors du coup, donc le minimax, si peut-être en dire quelques mots.
Il faut en expliquer quelques mots.
Ça
fait partie. Puis on va réécouter justement dans quelques instants dans le reportage. Il faut comprendre que minimax, c'est tout simplement une forme d'algorithme.
Exactement. En fait, dans minimax, c'est facile, ça porte son nom. C'est minimiser sa perte pour maximiser son gain. Ça part du principe que deux joueurs dans un jeu combinatoire, donc le jeu d'échecs, finalement. Essaie de jouer optimalement. Alors bien évidemment, personne n'est parfait et on fait des erreurs, mais l'idée c'est que finalement je peux prévoir le coup de mon adversaire puisque en théorie il faut qu'il joue optimalement. Et moi je cherche à jouer optimalement. Donc finalement je vais chercher à lui donner un coup qui va me permettre de remporter le plus au coup d'après. Donc il faut quand même que je lui en donne un petit peu, mais pas lui en donner trop pour moi récupérer. Et lui est dans cette même idée. Donc si moi je cherche à maximiser mon gain, lui il cherche à minimiser le mien. Donc c'est cette idée-là qui est aussi derrière les algorithmes, où on va pouvoir justement, grâce à des fonctions heuristiques, pondérer en fait et donner des valeurs aux pièces.
C'est ce dont je parlais tout à l'heure, le roi 100, la reine 10.
Exactement, selon la position, selon la valeur des pièces, il y a d'autres choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Et finalement, c'est ça aussi qui du coup est implémenté dans les programmes avec des valeurs, et on va faire appliquer un algorithme du minimax qui va ressortir finalement quel enchaînement de coups va être le plus adéquat.
Et ça va être important pour comprendre le reportage qui arrive dans une minute. Je vous précise qu'encore une fois, Branchez-vous sur notre fil Twitter. Là, on vient de mettre quelques tableaux, quelques plateaux d'échecs avec notamment l'explication des cases conjuguées à l'instant. Donc, ça permet de visualiser un peu ce dont nous sommes en train de parler. Il n'est pas impossible qu'Eric Birmingham fasse encore référence à quelques parties passées et pas encore des parties futures, parce que ça, c'est des distorsions dans l'espace-temps. Et on n'en a pas trouvé de solution dans la relativité générale pour le moment. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Nicolas. Bonjour.
Voilà, vous êtes allé vous mesurer précisément un ordinateur et vous avez perdu en un coup, je crois.
Oui, merci Nicolas. Oui, j'avoue, défaite lamentable. En même temps, pour ma défense, un esprit humain n'a quasiment aucune chance de gagner. Pourquoi ? Parce que du côté de l'ordinateur, il y a forcément des stratégies de jeu qui ont été programmées. Des algorithmes comme Alpha Beta ou Minimax qui sont devenus très puissants en force de calcul. Et même après la victoire de Deeper Blue en 97, les experts n'ont jamais cessé d'améliorer les programmes. Pour comprendre pourquoi, j'ai été voir Bruno Bouzy, un de ces experts, au laboratoire informatique de Paris Descartes. Pour programmer un jeu d'échecs, il y a des notions de fonctions d'évaluation, d'algorithmes, parcours de jeu, arbre de jeu.
Alors oui, quand vous avez une position d'échec, on peut l'associer à un nœud dans un graphe. Et quand on joue un coup dans une position d'échec, par exemple déplacer une tour, ça va modifier la position et cette nouvelle position va être un nouveau nœud dans le graphe. Et les deux nœuds du graphe sont reliés donc par un arc. Donc on a un graphe du jeu et donc un algorithme de jeu d'échecs va parcourir ce graphe en développant un arbre à partir de la position dans laquelle on est. Il va le faire jusqu'à une certaine profondeur fixée en jouant des coups. Quand il arrive à la profondeur fixée, il va appeler ce qu'on appelle donc la fonction d'évaluation. Et la fonction d'évaluation va montrer la propension de la position à être favorable au joueur qui joue ou à l'adversaire. Donc à partir de tous les résultats de la fonction d'évaluation, il y a un algorithme qui s'appelle Minimax. Donc on suppose que je suis max et que l'adversaire est min. Et cet algorithme Minimax va ramener toutes les valeurs de la fonction d'évaluation vers la racine, ce qui va permettre au programme de jeu d'échecs de choisir quelle est la meilleure action à jouer.
Quand vous dites choisir, c'est-à-dire qu'il est capable d'évaluer un coup à l'avance, sachant ce qui a été joué auparavant et ce qui sera joué dans la suite ?
Donc les programmes d'échecs, ils anticipent, ils sont tournés vers le futur. Donc par exemple, s'ils développent un arbre à profondeur 4, on va avoir des évaluations à profondeur 4 qui vont être remontées jusqu'à la position courante avec des alternances de maximum et de minimum. Et quand on est dans la position courante, donc à la racine de l'arbre, on est devant plusieurs positions qui sont à profondeur 1 et qui ont des valeurs minimax. Et donc on va aller, puisqu'on est à la racine, vers la position qui a la plus grande valeur. Alors le jeu d'échecs a la particularité que cette fonction d'évaluation, on peut la programmer déjà en mettant la valeur des pièces dans la fonction d'évaluation. C'est-à-dire que si vous dites qu'un roi vaut 100, que la reine vaut 10, que la tour vaut 5 et un pion vaut 1, et des valeurs opposées pour l'autre couleur, vous allez avoir pour chaque position donc une façon très simple d'évaluer une position. Et une des coïncidences qui se passe pour le jeu d'échecs, c'est que cette façon très simple de programmer une fonction d'évaluation marche relativement bien pour le jeu d'échecs. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez déjà avoir un programme d'échecs qui va avoir un très bon niveau.
Comment une machine arrive à modéliser donc des positions et des pièces pour proposer des coups et une stratégie ?
Donc déjà, il faut être capable de représenter la position sous forme de 0 et de 1. À partir du moment où voilà, on a une position et on a une façon d'engendrer des actions qui respectent les règles du jeu, on a le mécanisme de base qui va permettre ensuite de faire une recherche arborescente en itérant ce processus. Donc là, c'est le programme Stockfish qui est un logiciel coopératif pour le jeu d'échecs. Et donc, voilà, il utilise toujours les techniques dont on a parlé tout à l'heure, Minimax, Alpha, Beta, fonction d'évaluation. Donc en 2017, Stockfish est beaucoup plus fort que tous les joueurs humains.
Ouais, tout est en open source, tout le monde peut lire les contributions des uns et des autres.
Voilà, c'est un logiciel libre. Et donc il y a des centaines de développeurs. On utilise toutes les machines qui sont disponibles sur Internet. Et donc tous les développeurs en fait testent des nouvelles versions de Stockfish. Et quand ils arrivent à trouver des meilleures versions. Les meilleures versions sont rapatriées sur la version principale et le programme progresse de cette manière-là. Il y a une question qui s'était posée en 97, c'est est-ce que les joueurs humains allaient continuer de jouer aux échecs bien que l'être humain ait été battu par la machine ? Et la réponse est clairement oui, parce que évidemment, ce qu'on cherche, c'est un plaisir de jouer. Et donc, même s'il y a des machines qui sont plus fortes ou moins fortes que nous, voilà, on continue de jouer au jeu. Et là, l'année dernière, donc, il y a un logiciel de jeu de Go qui a battu le meilleur humain au jeu de Go. Ça n'empêche pas les joueurs de Go de continuer à jouer au jeu de Go, et ça n'empêche pas les programmeurs de ces jeux-là de toujours essayer d'améliorer leur programme d'échecs ou leur programme de Go.
Voilà le reportage du jour de Céline Lauzen derrière les mathématiques, derrière les nouveaux programmes informatiques de simulation du jeu d'échecs. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Lisa Rouchetet ?
Oui, alors j'aimerais dire que le Minimax, effectivement, c'est quelque chose qui a été dès le début dans la programmation du jeu d'échecs, et en fait qui est une idée qui a été développée déjà dans les premiers articles d'Alan Turing et de Claude Shannon, alors qui ne s'appelait pas encore Minimax, mais où l'idée était clairement là. Et finalement, il s'est avéré que c'est l'algorithme qui est encore finalement principal dans les programmes de maintenant. Alors avec des améliorations, ça a été mentionné, les lagages alpha-bêta, des améliorations sur la fonction d'évaluation, mais l'idée de base reste le Minimax, et qui a été la première idée développée finalement dans les années 50, au moment où on a commencé à réfléchir à cette programmation du jeu d'échecs.
Eric Birmingham, sur ce reportage.
Alors, sur ce reportage, moi je voudrais juste réagir, c'est très intéressant. D'ailleurs, juste sur cette idée, ce concept dont vous parlez, qui m'échappe un petit peu, ça me fait penser à une phrase de Bobby Fischer, parce que Fischer avait l'habitude de dire « If you want square, you ought to give squares ». Ça veut dire, si vous voulez des cases, il faut donner des cases. Et c'est un peu ce qu'expliquait Lisa.
C'est exactement ce principe. Mmh. Il ne faut pas penser qu'on peut tout avoir. Il faut pouvoir donner pour recevoir au maximum. Donc, mais donner le minimum pour un gain maximal.
Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est ce qu'il développait comme idée, c'est-à-dire qu'il faut faire des concessions pour obtenir plus. Je me souviens d'une partie, il avait une partie très célèbre. Il a un magnifique cavalier. Tout le monde adore son cavalier en C5. Et il va le donner contre un fou affreux de son adversaire en D7. Et les joueurs autour, les grands maîtres, font des bonds en disant « l'Américain est très fort, mais là, il a fait une bévue ». Et en fait, Fischer a dit après « c'est pas ce qui part de l'échiquier qui compte, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, c'est qu'il a une position gagnante. On se moque des pertes, on se moque des pertes matérielles. Il faut voir ce qui reste ». Donc là, ça rejoint un peu...
Moi, je comprends assez bien le concept, mais j'aimerais que vous nous expliquiez quand même ce qu'est un magnifique cavalier contre un affreux fou. Pourquoi un affreux fou? Ça veut dire que le fou n'est pas à une position importante, stratégique, sur le plateau. Expliquez-nous ces concepts-là, parce que moi, ça me parle assez, mais je suis pas sûr que ça parle à tout le monde.
Alors, je vais revenir sur un personnage dont a parlé Lisa, qui est un immense joueur au XVIIIe siècle. C'est André Danican Philidor. Philidor, il est enfant à la cour du roi de Louis XV, il est musicien, et pendant les pauses, il joue aux échecs, et il va devenir le meilleur joueur de son temps. Juste, c'est très intéressant, parce que ce personnage, il est mondialement connu dans le domaine de la musique. Si on va à l'Opéra Garnier, quand on est face à l'Opéra de Garnier, on va vers la gauche du bâtiment, on voit le buste de Philidor. Mais pour les joueurs d'échecs, c'est le premier grand penseur du jeu. Et Philidor a écrit une phrase quelques décennies avant la Révolution française, mais qui est vrai au sens propre comme au sens figuré. Il a dit « les pions sont l'âme du jeu d'échecs ». Tout est dans la structure de pions. En d'autres termes, si vous avez un fou noir en C8, il suffit que vous ayez un pion bloqué en D5 sur une case blanche, votre fou, il est mauvais. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un pion en D4, j'ai un cavalier en C5, vous avez un pion en D5, et vous mettez votre fou en E6, il joue pas. En F5, il a pas beaucoup de jeu. À cause juste d'un défaut dans votre structure, vous avez un mauvais fou. Ça suffit pour gagner. Pour des champions, ça suffit pour gagner. Après, ils vont travailler autour de ça. Donc, en fait, selon la structure de pion détermine la partie. C'est un peu comme dans la vie. On peut vivre très longtemps avec une grande maladie. On peut être en bonne santé et mourir parce qu'on prend un pot de fleurs d'un balcon du 6e. Mais si on a une grave maladie, on a quand même plus de chances de mourir que quelqu'un en bonne santé. Et c'est pareil aux échecs. On peut survivre avec une mauvaise structure, parce que l'autre va faire des fautes, mais on peut en mourir, on peut perdre la partie. Donc, pour rejoindre ça, tout à l'heure aussi dans le reportage, le monsieur a dit que les ordinateurs maintenant battent les êtres humains. C'est pas si clair que ça. Pourquoi ? Parce que on n'est pas du tout à égalité. Je m'explique. Quand on joue contre une machine, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est que l'homme est une machine à commettre des erreurs. On fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment le monde est et on voit que les hommes font beaucoup d'erreurs. Et on répète nos erreurs.
Susceptible de fatigue, de...
Voilà. Non, et puis même, il y a le stress. On sait qu'on joue. Mm-hmm. On sait qu'on joue pour un enjeu. On n'arrive pas à dominer nos émotions. Donc, on met des machines à produire des erreurs. On est des animaux fantastiques. On peut faire comme Fischer dans cette fameuse partie, mais on peut aussi commettre des erreurs. Et un autre facteur, c'est la pendule. La pendule nous met un stress considérable. Elle nous oblige à jouer de façon aussi perfectionnée que l'ordinateur, avec en plus la pression du temps. Lui, sur un nombre donné de coups limité, il ne fait aucune erreur. Il a un calculateur prodigieux, il ne fait pas d'erreur. Donc on n'est pas à égalité. Il y a un autre facteur, c'est que l'ordinateur, il a une bibliothèque d'ouverture. Par exemple, Deeper Blue, il avait dans sa mémoire, il avait 2 siècles des parties au plus haut niveau. Les programmeurs avaient mis dans ses mémoires les meilleures parties.
Ce qui est un peu le cas des grands champions d'échecs aussi, qui connaissent par cœur un certain nombre de parties phares ou de parties clés, avec évidemment pas la même amplitude.
Voilà. Et le problème de l'être humain, par exemple, Maxime Vachier-Lagrave, qui est le meilleur joueur français, qui a été numéro 2 mondial il y a quelques mois, Maxime m'a dit, le problème, c'est qu'en compétition, on joue une position qu'on a analysée il y a 6 mois, on peut oublier. On est des humains. Il arrive qu'ils oublient. Là, ils doivent se débrouiller. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui pousse aussi l'homme à faire l'erreur, donc c'est toute cette pression. Maintenant, imaginons, ça n'a jamais été fait, mais imaginons, on prend Kramnik, qui est un des très forts joueurs actuels, qui a un sens positionnel extraordinaire. Imaginons qu'on dise à Kramnik, vous jouez contre un ordinateur, mais vous n'avez pas de limite de temps. C'est pas sûr qu'il perde. C'est pas du tout sûr qu'il perde. Il vérifie toutes les tactiques. Les ventes tactiques, c'est les ventes forcées. Il vérifie la tactique. Peut-être même avec l'aide d'un autre ordinateur, il développe sa stratégie. Je pense qu'il va battre la machine. En fait, dans les yeux du grand public, on perd contre les machines dans les circonstances de la compétition. Mais intrinsèquement, c'est pas du tout évident que l'homme soit moins fort.
Sur une partie qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois.
Voilà, c'est pas du tout évident que les meilleurs joueurs du monde perdent.
J'aimerais tout de même qu'on dise un mot, parce que là, on parle, encore une fois, on a changé de paradigme. Hein. On était face à des supercalculateurs, Deeper Blue. On est aujourd'hui face à du deep learning, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a fait une émission consacrée au deep learning, donc à l'apprentissage profond, aux machines auto-apprenantes. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Avec ceci qui est intéressant, c'est que avant AlphaGo, qui vient de battre donc le champion du monde de Go, il y a un programme qui s'appelle le programme Giraffe, hein, qui est conçu par Matthew Lai à l'Imperial College de Londres, qui est un programme d'apprentissage automate, enfin de deep learning à proprement parler. Et donc ça veut dire que, en quelque sorte, on n'apprend pas aux machines à jouer aux échecs, on leur met le minimum dans leur programme, et petit à petit ils comprennent très vite tout seul. Là en l'occurrence, Giraffe en 72 heures se place immédiatement dans le top des 2% des meilleurs joueurs d'échecs internationaux en termes de niveau. Est-ce que ça veut dire que c'est grâce à ce deep learning, grâce finalement à ces nouveaux réseaux neuronaux informatiques, qu'on va pouvoir arriver finalement à égaler, voire à surpasser complètement les joueurs humains, à votre avis, Lisa Rouchetet?
Alors là, ça dépasse un petit peu le cadre de mes compétences, mais effectivement, c'est des choses qui sont très récentes et qui continuent d'alimenter l'intelligence artificielle. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que bon, on a commencé à programmer le jeu d'échecs en se disant, si on arrive à faire un bon programme qui puisse jouer, qui puisse battre un bon joueur, on aura compris quelque chose de l'intelligence humaine. Je classe ça un peu dans le mythe de la créature artificielle.
Je vais vous préciser votre pensée. Donald Michi disait à ce propos-là, l'étude scientifique de la programmation des échecs, qui inclut un travail technologique mais qui va bien au-delà de ça, est la plus importante importante étude scientifique menée en ce moment dans le monde. On est dans les années 60. Hein. L'utilisation actuelle des échecs comme un préalable au savoir futur en ingénierie est exactement similaire à cet égard aux travaux sur la drosophile.
Exactement. C'est-à-dire que c'était vraiment un enjeu très fort, et avec cette idée derrière, donc voilà, j'y reviens, du mythe de la créature artificielle, de créer finalement un programme qui soit à l'image de l'homme, à l'image de la capacité de raisonnement de l'être humain. Et ça s'est un peu perdu finalement au cours du temps, quand il y a eu une explosée des techniques avec des mémoires plus performantes, des puces plus performantes, des calculateurs, enfin des ordinateurs qui calculaient toujours plus vite et plus...
Des processeurs,
et plus. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on s'était complètement écarté de cette dynamique de créer quelque chose, enfin de créer un programme qui soit intelligent. Et il y a eu une certaine amertume à un moment donné, c'était surtout début des années 90, où on s'est rendu compte que oui, on avait des programmes qui commençaient à être très performants, qui commençaient à battre Lévy, par exemple. Oui, finalement, il savait faire que ça, il savait que calculer vite ce programme. Il y a eu une sorte d'amertume autour de ça. Et à partir des années 90, il y a eu un retour un peu plus à, je dirais, à la partie algorithmique, et à essayer de non pas de se tourner vers le calcul vite et brut, la vitesse brute de calcul, mais à quelque chose d'un peu plus raisonné, où on fait appel justement à des grands joueurs, on essaye d'introduire des fonctions d'évaluation plus performantes, des heuristiques de jeu, et c'est là qu'on commence à toucher finalement à autre chose que du pur calcul et de la pure application d'alpha-bêta. Et où là, finalement, oui, le deep learning entre en jeu. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Effectivement, c'est ce qui fait la différence aussi avec les programmes de Go maintenant. Parce qu'il y a aussi du minimax et il y a aussi d'autres choses dans le Go, mais c'est ça qui a permis finalement des réseaux neuronaux compliqués d'avoir des résultats aussi efficaces. Ouais.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h45, on va libérer Lisa Rouchetet qui doit s'enfuir pour sauter dans un train. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va poursuivre la fin de cette émission avec Eric Birmingham, qui est maître international FIDE et qui est aussi auteur de problèmes d'échecs dans l'humanité. Et comment est-ce qu'on construit d'ailleurs un problème d'échecs? Est-ce que ce sont des problèmes d'échecs issus de parties célèbres, de fins de parties que vous reprenez, ou est-ce que ce sont des choses que vous construisez? Comment est-ce qu'on établit ces types de problèmes?
Alors, il fut une époque, il y a très très longtemps, j'ai effectivement construit des problèmes, mais pour des débutants. C'était des petits maths, des petites choses, mais il y a vraiment très longtemps. Là, en l'occurrence, je ne les construis pas. C'est des positions qui sont tirées de parties, d'actualité. Donc voilà, je montre. Ou alors, ce sont des études. Des études, c'est-à-dire c'est des gens qui composent à très très haut niveau, et c'est magnifique. Il y a une esthétique, il y a une beauté, et c'est vraiment... C'est ça l'idée.
Parce qu'on parle des sciences derrière les échecs, mais comme le disait tout au début de cette émission, je citais Stefan Zweig dans Le joueur d'échecs, les échecs c'est aussi un art. On parle, vous l'avez entendu, vous l'avez dit vous-même, Eric Birmingham, de la beauté d'un coup, de la beauté d'une position. C'est aujourd'hui ce qui fait que même face à des intelligences artificielles type Stockfish, il y aura toujours une primauté aux joueurs, précisément pour cela, pour l'art, pour l'instinct, pour la capacité de duper aussi, pour l'erreur, pour toutes ces choses-là.
Oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, le jeu d'échecs, qu'est-ce que c'est? C'est un, comme disait Zweig, hein, vous l'avez cité, c'est une manière fantastique, unique, qui appartient à tous les peuples et à tous les pans, pour partager le temps, pour tuer l'ennui, et pour, il y a un auteur qui a dit que c'était une douche froide pour l'esprit. J'aime beaucoup cette formule. Mmh. En tout cas, c'est un passe-temps fabuleux, et c'est une compétition. Et c'est aussi s'émerveiller devant une jolie combinaison ou un concept magnifique. Voilà. Et pour reprendre ce que disait Lisa juste avant de partir, Murray Campbell, qui a été l'un des programmeurs de Deeper Blue, a été interviewé sur la BBC il y a quelques années. J'ai écouté en podcast l'interview. Et à un moment donné, Murray Campbell dit « Deeper Blue est stupide ». Il était stupide. La seule chose qu'il savait faire, c'était analyser des variantes. Mais il était dans la stupide. Pourquoi ? Il expliquait parce qu'il est incapable de faire autre chose. Il peut pas prendre de décision, il sait pas faire autre chose. Et il allait plus loin, il disait qu'il était stupide parce que il ne comprend pas qu'il est en train de jouer aux échecs. Il ne comprend pas, il n'a pas la conscience, il ne comprend même pas qu'il existe. Donc il n'a pas la conscience. C'est pour ça que l'un des problèmes des ordinateurs aujourd'hui, ce que je disais en tout début d'émission, ils ne peuvent pas envisager de jouer un coup inférieur pour optimiser leurs chances. Pourquoi ? Mm-hmm. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils jouent un jeu. Et ça, je pense, c'est un défi pour les programmeurs. Est-ce que les programmeurs arriveront un jour à faire comprendre à la machine qu'elle est en train de jouer ? C'est une vraie question que je pose, parce que là, ils pourront s'améliorer, avoir plus le sens du jeu.
Ce qui est un peu, dans une certaine mesure, le cas du deep learning, où la machine apprend elle-même ou apprend d'elle-même en sélectionnant les algorithmes qui fonctionnent le mieux, ceux qui fonctionnent le moins, etc. Mais effectivement, d'un seul coup, la notion de temps que vous évoquiez tout à l'heure pour les joueurs revient et se réintroduit, puisque les algorithmes qui fonctionnent ou les machines qui fonctionnent à partir d'algorithmes de deep learning mettent plus de temps à apprendre et plus de temps à penser et à construire leur coup. Est-ce que vous avez le sentiment que l'ère des grands champions d'échecs aujourd'hui est révolue, l'ère des Fischer, des Kasparov ?
En fait, ouais, ce qui se passe, c'est que d'abord, je pense que la défaite de Kasparov contre Deep Blue a fait un peu de mal parce que ça a cassé un tabou. On pensait que l'homme, en plus Kasparov, était un grand champion. Il y a aussi un autre facteur, c'est que on a eu la guerre froide. Pendant des années, on a eu cette confrontation.
Qui a été un moteur incroyable pour les jeux d'échecs et pour les compétitions d'échecs. C'était Russie, États-Unis. Voilà. Et jusque dans les programmes, il y a même eu la première confrontation de programmes de simulation d'échecs qui était une confrontation Amérique-Russie que vous évoquiez tout à l'heure
d'ailleurs. Tout à fait. Mais au-delà de ça, il y avait un réel intérêt pour les médias. Lorsqu'il y avait les confrontations entre les joueurs soviétiques et par exemple l'américain Bobby Fischer. Moi j'étais trop jeune, mais après dans la littérature, dans les journaux, les émissions de radio, on en parlait beaucoup. Les joueurs étaient invités sur les plateaux de télévision. C'était vraiment super impressionnant. Ensuite, il y a eu les confrontations entre Karpov et Kasparov. Mm-hmm. Et là, c'était l'enfant rebelle, l'enfant de la perestroïka, contre l'enfant choisi par le régime, l'ami de Brejnev, Karpov. Là, il y avait un véritable intérêt médiatique. Dans les années 90...
Fin des années 80.
Voilà. C'est-à-dire que les matchs Kasparov-Karpov, c'était de 85 jusqu'en 92, 13. 13, c'était le match contre Nantes, mais c'est ça. Donc on a eu 10 ans fantastiques. Et puis, après, fin de la guerre froide, l'Union soviétique qui s'effondre, on a les jeux vidéo. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes, c'est pas facile de les avoir en club parce qu'il y a la compétition avec tous ces jeux vidéo, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que le jeu d'échecs, j'ai l'impression, est un petit peu en perte de vitesse. Un tout petit peu.
Et puis surtout par rapport au premier plateau d'échecs comme moi j'ai pu avoir, qui était des plateaux d'échecs réels, on avait des pièces qu'il fallait appuyer pour déplacer, on jouait contre l'ordinateur qui nous indiquait comment bougent les pièces. Aujourd'hui, le jeu d'échecs, il est implémenté dans n'importe quel ordinateur, il est apporté, il s'est par ailleurs énormément démocratisé aussi.
Et vous avez raison, en plus c'est un truc, c'est tout simple, mais il n'y a plus, même moi, il n'y a plus trop le plaisir de toucher les pièces parce que maintenant on joue aux échecs sur l'écran. On joue sur internet, on travaille sur écran quand on prépare les parties avec les jeunes. Il y a guère compétition où on a le plaisir de toucher aux pièces. Sinon, dans la vie de tous les jours, on travaille sur un écran. Et c'est vrai que c'est terriblement dommageable. Maintenant, je pense que ça ne va pas tuer le jeu d'échecs, mais je pense qu'il peut y avoir une sorte de transformation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les gens, de plus en plus, ils vont jouer aux échecs. Par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent sur Internet. Ils disent, tiens, j'ai envie de passer une heure sympa. Ils vont jouer sur Internet. Mmh. Après, ils vont faire un tennis ou ils vont travailler, ils vont faire autre chose. En fait, c'est devenu quelque chose de très facile. Il y a une accession très facile pour jouer contre quelqu'un sur les sites. Mais c'est vrai qu'aller dans les clubs, comme autrefois, aller dans les compétitions, passer 15 jours, c'est un peu en perte de vitesse.
Et néanmoins, il y a toujours cette espèce de fascination constante. L'adaptation Le Prodige avec Tobey Maguire d'une partie de la vie de Bobby Fischer date d'il y a quelques années à peine. Oui. Comment est-ce que... C'est pour ça que je posais la question de la notion des grands maîtres. C'est-à-dire que on sait qu'on disait Kasparov était un esprit torturé, on dit que Bobby Fischer était à moitié fou, enfin qu'ils avaient tous des personnalités extrêmement complexes, et que c'est ces personnalités complexes qui les rendaient impossibles à affronter, parce que effectivement Karpov était lui une espèce de bloc de froideur, de d'ordinateur humain, enfin bref, il y avait vraiment toute une légende qui était construite autour de ces joueurs là et c'est vrai que on a l'impression que cette notion du grand joueur d'échecs fou que décrivait Zweig dans le joueur d'échecs, torturé, a un peu disparu. Donc aujourd'hui, on est finalement qu'on est plus proche de d'un joueur anonyme face à un ordinateur anonyme. Ça s'est un peu perdu toute cette tradition-là.
C'est vrai que les temps ont changé et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde, ils sont gentils, ils sont bien habillés, ils sont très polis. Il n'y a jamais d'esclandre. Quand par exemple Carlsen, qui vient de perdre une partie, refuse d'aller en conférence de presse, eh ben on lui met une amende, on le dispute. Mais par exemple,
ce qui était impensable avant.
Vous imaginez disputer Bobby Fischer parce qu'il n'est pas allé à une conférence de presse, mais il prend l'avion, il rentre aux États-Unis, quoi. C'était impensable. Kasparov, il pouvait avoir une crise de colère. C'est vrai que les temps ont changé. C'était un peu des prima donna autrefois, et aujourd'hui ils sont tous très 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 gentils, pas un mot plus haut que l'autre. Ça me fait penser un peu, vous voyez, au tennis où on avait une époque, on avait McEnroe, on avait des gens comme ça.
Connors.
Et voilà, Connors, qui prenait des amendes et ça faisait marrer tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont tous très polis. Et c'est vrai que les temps ont beaucoup changé. En tout cas, aux échecs, on n'a pas de grande personnalité. D'ailleurs, le champion du monde actuel, bon, c'est quelqu'un de très intéressant, il est très fort, mais il est quasiment inconnu du grand public. Magnus Carlsen, les gens ne connaissent pas Magnus Carlsen. Par contre, Kasparov, tout le monde connaissait Kasparov. Karpov, Fischer encore plus avant.
Spassky,
tous ces grands joueurs. Et c'est vrai que l'aura autour de ces joueurs est un peu tombée.
Et les femmes dans tout ça, avec Birmingham, pardon.
Comment ?
Je vous ai appelé Cunningham, pas du tout, c'est Birmingham, autant pour moi.
Les femmes, oui, votre question.
On entend moins parler, c'est un milieu quand même, c'est même si c'est un milieu qui s'est perfectionné, dont l'informatique s'est perfectionnée, on a l'impression que c'est un milieu qui est resté encore très très fermé à la parité.
Ça, c'est intéressant parce que j'avais été invité par quelqu'un ici il y a 2 ans. On avait parlé. Alors, dans l'histoire, au début de l'histoire des échecs, quand les échecs s'installent en Europe, les femmes, on va dire à partir du 10e siècle jusqu'au 16e, 17e siècle, les femmes sont très fortes aux échecs. Elles ont un rôle important. Souvent, elles sont à la maison. Elles ont un rôle social très important. Et il y a beaucoup de temps libre et elles jouent très, très bien aux échecs. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les femmes dans le milieu des échecs, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent au jeu. Et alors, il y a beaucoup plus de joueurs, de joueuses fortes aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années. Mais c'est vrai que là, il faudrait inviter une joueuse féminine. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes s'intéressent moins aux échecs que les hommes. C'est un peu un mystère, je ne sais pas. Mais il y a d'autres, par exemple, moi je m'intéresse à un autre sport qui est le tennis de table. Il n'y a pas de femmes au tennis de table non plus. C'est très surprenant. Enfin, le club où je suis, il n'y a pas de femmes. J'ai le chic de trouver des sports ou des activités où il n'y a pas de femmes.
Vous posez quelques questions. Pour le tennis de table, pour le coup, il y a un certain nombre de joueuses, notamment asiatiques ou chinoises, qui sont très très fortes et qui ont un très très haut niveau.
Comme aux échecs.
Absolument. Un mot pour conclure, puisqu'il nous reste quelques minutes, pour les joueurs ou pour les joueuses d'échecs qui continuent à jouer, qui jouent sur Internet ou qui jouent quelques parties, s'il y a quelque chose à faire que vous conseilleriez, Eric Birmingham, pour progresser, pour dépasser son niveau, pour aller un peu au-delà de soi, pour se dépasser simplement, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce qu'il faut faire justement des jeux tels ceux que vous proposez dans l'humanité ? Est-ce qu'il faut des...
Alors, en fait, je pense que déjà, dans l'immédiat, quand on démarre, il faut acheter un bon bouquin. Donc là, il y a les endroits spécialisés. Il y a une boutique spécialisée à Paris qui s'appelle Variant. Et donc, on achète un bon bouquin. On travaille un petit peu avec le bouquin. Et puis, il faut s'inscrire dans un club. Dans un club, il y a des cours. Un club où il y a des cours qui sont donnés avec des cours une fois par semaine. Les copains qui vous donnent des conseils. Le travail avec des bouquins. Si on aime ça, on commence à faire un peu de compétition, on joue dans des tournois qui est en accord avec sa catégorie, parce qu'il y a des tournois pour toute catégorie de joueurs, et là on va progresser. On peut éventuellement jouer pour s'amuser contre un programme, quand on a du temps. Par exemple, pour tester les ouvertures, c'est fantastique les programmes, parce que le programme permet d'avoir... de voir si on est à l'aise dans un type de position. Le problème des joueurs d'échecs, c'est de savoir qui ils sont. C'est-à-dire que selon son style, il faut choisir son ouverture. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, il y a des ouvertures qui sont plutôt qui vont amener un jeu plutôt ouvert, agressif. D'autres ouvertures, c'est plutôt un jeu fermé. Donc, il faut d'abord savoir qui vous êtes. Ensuite, vous choisissez vos ouvertures. Ensuite, vous travaillez les parties qui sont relatives à vos ouvertures et vous allez progresser.
Voilà les conseils d'Eric Birmingham pour progresser aux échecs. Si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez retrouver l'émission sur le site de France Culture, franceculture.fr, sur la page de la méthode scientifique ou en podcast, bien évidemment. Mille merci, Eric Birmingham. On peut retrouver vos problèmes d'échecs dans le journal L'Humanité. Merci aussi à Lydia Rouchetet qui a dû nous quitter un peu plus tôt pour récupérer, pour attraper son train. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Noémie Naguette Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. Et demain, table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Comme un vendredi sur deux, on parlera entre autres de matière noire, de mutations génétiques qui influent sur le développement du cerveau et de noyaux atomiques, sans compter qu'on parlera bien entendu, évidemment, du retour de Thomas Pesquet sur la Terre ferme dans un instant. Dernière LSD, la série documentaire consacrée aux philosophes emprisonnés. Aujourd'hui, Gramsci et Rosa Luxembourg. C'est une série signée Élise Gruot, Angélique Thibault et Perrine Carvran. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.
France Culture. L'esprit d'ouverture.